Le 16 avril 2018, je partais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voici mon histoire. Je fus le premier à emprunter les marches du chemin qui me firent sortir du ventre de la cathédrale. Les autres jacquets partiront par petites grappes. N'ayant pas pris le temps de petit déjeuner avant de me rendre à la messe de bénédiction, mon estomac me rappela à l'ordre et me dirigea vers un troquet. Sur la route, je fus interpellé par un vieil homme qui me parut complètement allumé, touchant mais allumé. Il me mit en garde des dangers du chemin, qu'il y a connu 3 morts dans une vallée, je ne compris pas laquelle. La larme à l'œil, il me salua. Encourageant ce garçon. Croissant et café en bide, l'heure était à la distribution de mes quelques dernières centaines d'euros aux sans-abri du coin qui ne comprirent pas ce qui leur tombait dans les mains. Je n'ai jamais tellement aimé l'argent. Il me le rendait bien d'ailleurs. À chaque fois que j'arrivais à me constituer un petit bas de laine, il me tombait une merde sur le coin de la tronche, m'obligeant à le détricoter complètement, voire à m'endetter. J'ai toujours misé sur le temps, considérant qu'il vaut beaucoup mieux que l'argent. Ce ne serait pas en bûchant toute mon existence sans rien produire d'autre que de la valeur sonnante et trébuchante que je pourrais bâtir une vie. Si certaines personnes considèrent que l'oseille est la clé de la liberté, il m'a toujours été semblable à des barreaux de prison. L'argent attirant l'argent, je voyais bon nombre de mes congénères perdre leur vie à essayer de la gagner, passer leur temps à constituer un capital qu'ils ne s'autorisent jamais à dépenser, sauf 5 semaines par an et encore bien budgétisé, de peur de perdre leur confort. S'acheter une liberté virtuelle qu'ils n'utilisent jamais. Je voyais l'argent comme un outil de division massive. Il fait perdre la véritable valeur du temps, des moments, du partage. Il sépare les hommes, les classant par catégorie de revenus, réduisant l'humanité à une capacité de production, confondant sa catégorie professionnelle à son éthos, son pouvoir d'achat à son pouvoir-faire. Et puis sans me prendre pour Allende, je ne comprends pas comment dans ce monde où la vie existait bien avant l'argent, il soit devenu obligatoire de payer pour exister, boire, manger, se soigner. Comment est-il possible qu'il faille raquer pour ses besoins vitaux et fondamentaux? Avec le pognon, on ne choisit pas une vie en fonction de l'homme que l'on veut être, mais un mode de vie en fonction des revenus que l'on peut avoir. Ayant déjà voyagé sans un clou près de 10 ans auparavant, parti sur une coquille de noix à traverser l'Atlantique, j'avais compris que la liberté ne dépend pas d'un capital financier, mais de sa propre capacité à improviser, imaginer et de projeter aucune limite.
J'ai débuté ma carrière dans un hold-up audacieux. Il y avait de la cervelle par terre, les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon, dans le slip d'une souris, puis passer dans le ceinturon d'un marchand de paradis qui se fit dézinguer plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un tueur à gages, car on disait ses fins de mois. C'est pas que dans ce boulot-là, on soit souvent en chômage. Surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République. Comité d'action civique. Je me suis multiplié chez un type assez bizarre qui travaillait tard le soir à la plume et au pochoir. Voyager dans des mallettes, dans des fourgons, des tablettes, dans des jeans ou de la soie, en jaguar et en matin. Je suis même passé dans vos poches, grippé par vos doigts crochus, accrochus. J'étais même au PSU, au parti, et à minute, avant de faire la culbute dans les poches de Lavillier, ouais, mais ça n'a pas duré. J'ai dormi chez des prélats, entre 2 doigts d'arnica, 3 bons mots, une caresse, au vicaire et sur les fesses. Je suis le pouvoir d'achat, je suis celui qui décomplexe, je suis le dernier réflexe. On n'est pas prêt d'oublier. Essayez de me supprimer dans un coin sur la planète. Il y en a qui feraient une drôle de tête. Il y en a même qui en sont morts. Aliénés dans le décor. Je suis passé sous les tables et glissé sur des tapis. Dans des poches confortables, j'ai pris un peu de répit. Dans les mains d'un mercenaire, puis dans la révolution, j'ai participé, mon frère, à des tas de combinaisons. Si tu savais ce que je sais. Dans quelles mains je suis passé. Tu t'en ferais pas beaucoup pour ta petite éternité. J'ai voulu me racheter, mais voilà, j'étais trop cher. Depuis que les financiers mettent mes vertus aux enchères, depuis que les poètes maudits comptent leurs économies, je suis une pute tonnerre d'acier, je sais tout mais je dirai rien. C'est peut-être préférable pour l'idéal républicain. J'aimerais crever, tu sais. J'aimerais qu'on me foute la paix.
Malgré ma volonté de dépouillement total, une petite voix intérieure me dit de garder 60 euros par devers moi. Après tout, ce n'est pas con, j'allais certainement en chier physiquement. Autant dormir dans un gîte le premier jour, histoire de ne pas tomber dans le dur tout de suite. Voilà. Il ne me restait plus qu'à envoyer quelques ultimes messages à la famille et aux amis, casser mon téléphone et hop, en route, pour de bon. La sortie du puits n'est pas aussi laide que me l'avait décrite. Je dirais même qu'elle a son charme. En revanche, ça grimpe. Au bout d'une quinzaine de minutes de marche, mon regard s'est posé sur une amusante pancarte destinée à avertir le pèlerin qu'un vieil autochtone conseille de passer par Binse, une variante pour se rendre à Saint-Privat-d'Allier. Celui-ci la proclamant comme l'originelle tracée du chemin. Ce conseil, dit le panneau, nonobstant la véracité ou non de l'authenticité de la variante, a le fâcheux inconvénient de perdre le pèlerin sur un sentier plus long et quasiment sans gîte. Je ne croiserai jamais le vieux. La ville et son quartier résidentiel qui marque la sortie du Puy-en-Velay laissent rapidement place à un paysage agricole. Ça sent la bouse et l'humus. C'est beau. Mon esprit vagabonde au gré de mes pas. 1500 kilomètres me séparent de Santiago. Cela me semble vertigineux, tellement loin, comme si cette ville n'était qu'une chimère. Je marche vers l'Atlantide. Est-ce que je vais y arriver? Ne tiendrai-je que 9 jours comme le pensait mon oncle? Et mon sac est lourd, j'alterne entre chaud et froid, ça commence bien, tiens. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau. 2 heures de chaud-froid plus tard, gambadant péniblement au travers des champs arborés, je m'aperçus que cela faisait un certain temps que je ne voyais plus le balisage du GR65. Pas de panique, je vois 2 pèlerins au loin, et il me semble reconnaître le Hollandais. Ce sera une bonne demi-heure passée cette réflexion que j'admis la possibilité de m'être gouré de sentier. J'en eus la confirmation lorsque je me retrouvais dans un petit bourg non référencé sur ma carte IGN. Merde, 7 kilomètres de détour à rattraper. Je ne serai pas à Saint-Privat-d'Allier ce soir. Petite pause casse-croûte et bamos. Je viserai mon bonnet. Il y a 2 gîtes là-bas, cela ira bien. Leçon à retenir, si tu ne vois pas de balisage pendant plus d'un quart d'heure, c'est que tu t'es planté de sentier. Mais si tu vois d'autres pèlerins à l'horizon, méfie-toi, ils peuvent largement être aussi cons que toi. Peu de temps avant d'arriver à mon bonnet, une petite chapelle baptisée Saint-Roch s'est érigée devant moi. 2 bénévoles de la paroisse, nuanciers en main, débattaient quant au choix de la couleur de la porte d'entrée. Elles choisiront chocolat, les gourmandes. Mon bonnet, ici mon bonnet. Je fis mon entrée dans un troquet où je pus me désaltérer avec 2 bonnes bières, avant de prendre place au gîte où je passerai la nuit et ferai ma première rencontre véritable avec d'autres pèlerins. C'était mon chemin de Compostelle, que vous pouvez réécouter en podcast sur flavienbernard.fr dans la rubrique radio, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un bon chemin.